6h-8h,
Matin Première.
Il est 7h48, les démocrates s'emparent du Congrès américain, de la Chambre des représentants. Les républicains, eux, gardent le Sénat. Le président Donald Trump va continuer de pouvoir peser sur la politique américaine, mais il va devoir apprendre le compromis. Quelles sont les conséquences pour nous, Européens, de ce scrutin? On décortique la situation avec l'économiste et professeur d'université Bruno Colman. Il est votre invité, Thomas Gadisseux.
Bonjour Bruno Colman.
Bonjour Thomas Gadisseux.
C'était donc le match de deux Amériques. Le scrutin américain s'est transformé en référendum pour ou contre Donald Trump. Il dit ce matin qu'il y a eu une immense victoire des républicains. Vous êtes d'accord ?
Je pense qu'en tout cas qu'il n'a pas perdu les élections et ce n'est pas du tout la vague démocrate qu'on avait pu envisager. C'est d'abord un signe d'intense démocratie parce qu'il y a eu un taux de participation largement supérieur aux élections précédentes, sans doute près de 40%. Il y a eu un ancien président qui s'est impliqué. Il y a eu 36 millions de personnes qui ont voté avant l'élection dans les États où c'était autorisé. Et aujourd'hui, on a une Chambre des représentants qui sera majoritairement démocrate, mais on a un Sénat qui sera plus républicain qu'auparavant. Et en fait, aux États-Unis, ce qui importe, c'est le Sénat. Qu'est-ce que c'est? Le Sénat, c'est 100 personnes, donc il y a deux représentants par État, les 48 États continentaux, plus Alaska et Hawaï. Et en fait, les sénateurs sont, à l'image un peu du Sénat romain, élus pour 6 ans, donc c'est la partie stable du système. Et en fait, c'est ce sur quoi Trump comptait. D'ailleurs, il a fait campagne pour les sénateurs et pas du tout pour les représentants.
Et d'ailleurs, les républicains sont renforcés, hein, ils renforcent leur majorité au Sénat. Il est donc renforcé aussi dans son propre camp républicain, Donald Trump. C'est la rampe de lancement pour les prochaines élections.
Oui, parce que Trump, en fait, cherchait le plébiscite, le référendum, et si tant est qu'il ait pu être élu sur sa personne en 2016, aujourd'hui, c'est un parti qui est en train de gagner. Donc, en fait, son poids politique augmente, et ce n'est plus l'Amérique d'une personne contre, on va dire, le deep state, c'est-à-dire, en fait, l'État profond. C'est, en fait, un parti républicain qui l'a complètement adoubé, et qui a remarqué que chaque fois qu'il adoubait un candidat lui-même, eh bien, ce candidat se faisait élire.
Et il écarte aussi une possibilité d'être destitué, parce que, ben voilà, si le Sénat reste républicain, c'est aussi son camp qui décidera ou non de sa survie.
Oui, la destitution aurait été improbable parce qu'il faut d'abord 2/3 des voix dans le Sénat, ce qui est quasiment impossible à obtenir. D'autre part, les démocrates n'en ont jamais beaucoup parlé parce que ça voudrait dire que Pence, son vice-président, devienne président. Et puis, il y a aussi un problème de violence sociale, c'est-à-dire que si tout d'un coup, il y avait une menace d'impeachment, de destitution, certains pensent que Trump pourrait appeler ses partisans quasiment dans les rues, armés, et donc ça conduirait à des situations d'éruption de violence tout à fait incontrôlées. Donc, c'est peu probable. Non, Trump va terminer son mandat et est déjà maintenant clairement candidat pour 2020.
Bruno Colman, vous parlez de violence sociale, c'est une violence politique aussi qui s'illustre là ce matin avec une Amérique complètement clivée.
Oui, mais les États-Unis, il faut y avoir vécu, étudié pour le savoir. C'est un pays violent, c'est un pays où les gens sont armés, c'est quand même un pays où il y a 300 millions d'armes pour 327 millions d'habitants, ce qui est beaucoup. Et aujourd'hui, on voit un clivage très très clair entre, d'une part, les zones côtières, qui sont plutôt démocrates, et puis l'Amérique profonde, qui est restée républicaine, qui a fort souffert de la désindustrialisation, de l'agriculture, parce qu'en fait, c'est un pays qui est un pays d'agriculteurs, à la base, les États-Unis. Et il y a des plaies qui ne sont pas cicatrisées. Hein. On reparle de guerre civile, on parle de la ségrégation, et Trump, bien sûr, a irrité les nerfs de l'Amérique profonde à son bénéfice.
Et pourtant, on a des histoires aussi hein, qui vont émerger. Cette serveuse qui débarque du coup à la Chambre des représentants, une candidature en quelques mois, c'est aussi un vote des femmes démocrates qui s'est exprimé dans les urnes, et en même temps, un camp républicain qui s'est renforcé dans les campagnes. Donc comment, à un moment donné, on va pouvoir réconcilier cette Amérique? Parce que la représentante hein, des démocrates dit ce matin, il faut la restauration des pouvoirs et des contre-pouvoirs, est-ce que c'est vraiment possible?
En fait, les pouvoirs et les contre-pouvoirs sont renforcés par cette élection. C'est un signe de vitalité démocratique. Et c'est vrai que les démocrates apportent des candidats un peu étonnants, mais les démocrates n'ont pas réussi à désigner un leader qui sera l'opposant de Trump aux élections présidentielles. Ceci étant, c'est vrai, c'est un peu l'Amérique blanche traditionnelle et protestante contre des minorités éparses qui est en train d'émerger maintenant, à la Chambre plutôt qu'au Sénat. Et en fait, la réalité des États-Unis, c'est de savoir comment l'apaisement social, ethnique, racial va pouvoir être atteint. En fait, on a l'impression maintenant que Trump cherche plutôt la répression de l'opposition plutôt que l'accord national. Et c'est étonnant parce que les États-Unis sont un pays d'individualistes, mais c'est un pays qui a toujours été fondé sur l'adhésion à des valeurs morales profondes, à savoir l'attachement aux drapeaux, aux institutions. Et c'est ça que Trump met en cause. Finalement, il montre que sa personne déstabilise ce que les pères fondateurs, il y a plus de 2 siècles, ont créé, c'est-à-dire un pays de check and balance, de pouvoir et de contre-pouvoir, dans une logique protestante et d'équilibre.
Quand on vous entend, on a l'impression que Trump ne va pas quitter le pouvoir, en fait.
Ben, je pense que d'abord, il va être réélu en 2020 parce qu'il n'y aura pas de candidat sérieux. Il fera ses 8 ans. On sait que depuis Roosevelt, un président ne peut pas faire plus de 2 mandats ou 10 ans.
Il pourrait changer ça ?
Il ne pourrait pas le changer parce qu'il faut des majorités spéciales, mais je crois qu'il va tenter certainement de rester d'une manière ou l'autre. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que quand il se sent en difficulté, il invoque le fait maintenant que des Russes ou des Chinois aient pu manipuler les élections pour les rendre moins légitimes, argument qu'il n'a pas utilisé dès qu'il a compris par des statistiques qu'il gagnerait le Sénat. Donc, on sera sans doute face à une Amérique singulière dans les 6 ans à venir.
Bruno, comment vous avez siégé dans le comité de direction de la Bourse de New York ? Vous connaissez bien cette économie américaine. Décrié chez nous, Trump, il a un bilan qui cartonne aux États-Unis, croissance à plus de 3%, plein emploi, moins de 4% de chômage. Il a promis 1400 milliards de dollars des baisses d'impôts sur les 10 dernières années. Ça marche, les ménages, les entreprises sont plus riches. C'est une leçon pour les Européens ?
Non, beaucoup plus riche. En fait, c'est Obama qui a donné la bonne leçon. Quand la crise de 2008 est arrivée, Obama a compris qu'il fallait absolument injecter de l'argent public. Ils ont imprimé de la monnaie, ce qu'on a fait seulement 5 à 6 ans plus tard. On a fait une erreur historique en Europe. Et on a vu, alors que le taux de chômage était le même en 2011-2012 aux États-Unis et en Europe, ce chômage baisser à moins de 3% maintenant aux États-Unis. Ils sont quasiment au plein emploi. Nous, on est encore à 8%. Et cette économie marche bien, mais ce n'est pas Trump qui a changé les choses. Trump a créé un effet d'anticipation, notamment boursier par ses baisses d'impôts. Mais la réalité du rebond américain, c'est Obama qui l'a mise en œuvre.
Sauf qu'il capitalise, c'est aussi ça l'argument de ces élections, c'est que America great again, c'est le cas, c'est réaliste.
C'est tout à fait le cas. Il a prolongé une tendance et aujourd'hui, j'étais encore à New York il y a 15 jours, on sent le plein emploi. C'est-à-dire que même si c'est vrai que l'immobilier vaut un peu moins à New York, même si le chômage est un peu caché, on voit une économie qui tourne, qui rouge vif. Et d'ailleurs, il y a des problèmes d'emploi. On voit par exemple que dans les restaurants, dans les endroits où il faut des jardiniers, par exemple, il n'y a plus de personnes parce que le repoussoir de l'immigration a conduit au fait qu'il n'y a plus assez de travailleurs disponibles dans certains domaines.
Et tant que les résultats économiques sont bons, il va pouvoir avancer. Et je repose ma question, c'est une leçon pour les Européens ? Mais là, pour l'instant, sont en train d'hésiter, problème en Italie, Merkel qui est affaiblie.
Mais toute la gestion américaine est une leçon depuis 10 ans pour l'Europe. En fait, cette crise a touché bien sûr l'Europe en 2008 et les États-Unis. Mais les Américains avaient retenu de la crise de 1929 qu'il fallait absolument libérer le déficit budgétaire, affaiblir la monnaie. Nous, influencés par les Allemands, on a exactement fait le contraire. D'ailleurs, le bilan de Merkel est un peu mitigé dans ce domaine. Et donc, on a 6 ans de retard dans le cycle économique.
Seul bémol, quand même, c'est la dette. Il creuse de manière spectaculaire cette dette américaine. Il est en gros en train de brûler les meubles de la maison pour se chauffer. C'est du court terme.
Non, c'est un des dangers, parce que la dette augmente, le déficit budgétaire sera probablement de l'ordre de 5% l'année prochaine, ce qui est à peu près le double de ce que l'Italie propose maintenant. Et ça veut dire que les Américains vont sans doute avoir une dette trop importante. Seulement, aux États-Unis, il y a une chose assez étonnante, c'est qu'ils sont capables de rebondir très rapidement. C'est une économie résiliente. Et donc, contrairement à l'Europe qui doit absorber ces chocs économiques par du chômage, là-bas, ce sera sans doute par de l'inflation et par de taux d'intérêt. Mais l'inflation, ce n'est pas grave si tout le monde travaille.
Et surtout qu'il est à la tête de la première devise de la planète. Personne ne peut se passer du dollar, donc en gros il peut faire ce qu'il veut, Donald Trump.
Tout à fait, c'est un pays qui a imposé à toute la Terre sa monnaie, par sa force militaire, par son pouvoir de négociation, et aujourd'hui le dollar reste l'étalon monétaire incontestable.
Du coup, les résultats là, de ce scrutin auront un impact aussi sur la politique étrangère, le Sénat renforcé républicain, ça veut dire qu'il peut, en fait, il peut laisser tourner les camions en interne, Donald Trump ça marche, l'économie elle roule, il est plébiscité au niveau interne, et du coup il peut s'attaquer à sa politique extérieure qui va encore peut-être cliver davantage.
Oui, probablement. Il va continuer certainement à démanteler des accords internationaux. J'espère une chose, c'est qu'il ne va pas lancer une guerre, notamment contre l'Iran, parce que ce serait une catastrophe. Mais en tout cas, sa politique étrangère de renationalisation de l'industrie est perçue chez les Américains comme étant un succès. Et c'est vrai que le plein emploi, à certains égards, on a la meilleure illustration.
Et on parle beaucoup chez nous de cette guerre douanière, de ces embargos sur la Chine, mais aussi pour nous, Européens, quelles pourraient être les conséquences de ce renforcement de cette guerre commerciale.
Cette guerre commerciale, d'abord, elle va être considérée comme étant plus concrète de la part des Européens. Ce n'est plus l'affaire d'un seul homme qui décide par ordre exécutif, mais c'est une nation qui est derrière lui. Et ça veut dire aussi que nous avons intérêt à être très unis, nous ne le sommes pas d'ailleurs, devant les États-Unis, notamment en matière commerciale et en matière de défense. Mais c'est vraiment une leçon, vous l'avez dit d'ailleurs, vous l'avez suggéré, très importante pour l'Europe. C'est-à-dire que l'hésitation, le fait d'être pusillanime en matière de gestion économique, ça ne mène nulle part. Et les Américains sont capables de rassembler un peuple, même s'il est un peu clivé maintenant, voire fortement clivé dans certains domaines, derrière des valeurs supérieures. Et maintenant, derrière une croissance économique. Donc, en fait, les Américains ont montré que 10 ans après la crise, ils ont gagné cette crise.
Président américain Donald Trump, qui débarque d'ailleurs en Europe à Paris vendredi, considéré comme dangereux quand même beaucoup, hein, dans les chancelleries européennes, il l'est encore plus maintenant ?
Je ne crois pas. Je crois qu'il sera moins, un électron libre, justement parce qu'il y a des institutions derrière lui. Et je crois qu'il sera sans doute apaisé par le fait qu'il ne doit plus s'opposer à l'establishment de Washington, puisqu'il a montré qu'il était capable de fédérer des personnes derrière lui.
Et l'après-Obama, pour les démocrates, ça donne quoi, du coup ?
Mais l'après-Obama, ça ne dit pas grand-chose. Il n'y a personne qui émerge au sein du Parti démocratique comme étant un leader potentiel. Il y a Nancy Pelosi, qui est donc la troisième personnage de l'État américain, qui est en fait la Speaker of the House, donc la chef de la Chambre des représentants, mais qui est une dame âgée, qui est très très contestée. Et donc aujourd'hui, les démocrates sont en peine de trouver un leader charismatique capable de s'opposer à Donald Trump.
C'était pas une victoire des démocrates. Trump cherchait un référendum. Son poids politique augmente avec cette victoire des républicains au Sénat. Je pense qu'il sera réélu en 2020. Déclaration de Bruno Coleman, l'économiste sur la première. On en reparlera dans deux ans. Hein, Bruno Coleman. Bonjour François Heureux.
Oui, bonjour Mehdi, bonjour tout le monde. Un long calvaire ce matin porté au grand écran.
Hier soir, on nous a dit une vérité terrible. On les ressortira de l'eau seulement dans un an. On ne mettra pas le foulard de deuil tant qu'on n'aura pas vu les corps. Jusqu'à mardi, les marins tapaient sur la coque à coups de marteau. Ils demandaient « Aidez-nous ».
Vous vous souvenez, en août 2000, le long calvaire des 23 marins survivants du Kursk et de leurs épouses que l'on entendait ici, sous-marins nucléaires, touchés par une série d'explosions. La plupart des 118 hommes à bord vont périr tout de suite dans ces explosions, mais 23 d'entre eux vont encore y vivre, plusieurs jours visiblement. C'est ce que raconte le film de Thomas Vinterberg, Kursk, tourné, vous le savez, Mehdi, principalement en Belgique. On en parle avec Hugues Daillé dans un quart d'heure dans Jean Première.
La première, l'esprit clair.